un sens à ma vie. Et je n'aurais jamais pensé avoir une vie aussi extraordinaire. Aujourd'hui, vous savez, quand j'ai découvert Dieu dans ma vie, j'ai perdu automatiquement 3-4 amis. Et je pensais que ma vie était finie, j'ai perdu mes amis, tout ça. Mais ce que je ne savais pas, c'est que je perdais 3-4 amis, mais je gagnais une famille mondiale. Ce soir, je suis dans ma famille. Je suis désolé, mais vous êtes pris avec moi pour l'éternité. Et aujourd'hui, c'est fou là, mais je reçois à tous les jours de ma vie, je reçois des messages de ma famille du monde entier. Il y a quelques semaines, l'avion se posait à l'île de la Réunion, là où Dieu habite pendant l'hiver. Et alors que j'étais là, je me dis, c'est pas possible, je suis là pas pour prendre des photos, être touriste, je suis là pour raconter aux gens ce que Dieu a fait pour moi. L'amour de Dieu m'amène à 18 000 km de chez moi. Vendredi dernier, l'avion s'est posé sur Toulouse. Alors que l'avion se posait sur la piste, je me disais, c'est pas croyable, je suis là à cause de ce que Dieu a fait pour moi. Ce soir, je suis avec vous, on chante, c'est merveilleux. Tout ça à cause de ce que Dieu a fait pour moi. J'aurais jamais pensé avoir une vie aussi extraordinaire. Et c'est ce qui se passe lorsque tu t'approches de Dieu et que tu lui donnes ta vie. Non seulement il te transforme, mais en plus, il a une destinée extraordinaire. Il y a un passage dans l'évangile de Luc au chapitre 4, verset 18. Luc, chapitre 4, verset 18. Luc, c'est le deuxième plus beau nom dans la Bible après Jésus. Michel, c'est pas dans la Bible, je suis désolé. Allez. Voilà. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, verset 18, Jésus sort d'un jeûne de 40 jours et là, il annonce sa mission, la raison pour laquelle il est venu sur la terre. Il dit, je suis venu, là, il donne deux, trois raisons et la dernière raison qu'il dit, je suis venu pour renvoyer libres les opprimés. Il est venu pour ça. Et pendant des années, lorsque je lisais ce passage, j'avais l'impression, ma vision, c'est d'un opprimé, c'est quelqu'un qui est brisé par la vie, tout ça, et Jésus le libère. C'est fantastique, n'est-ce pas? Mais c'est encore plus que ça, parce que quand tu vas voir dans le grec, le texte grec, le Nouveau Testament est écrit en grec, quand il dit l'expression « renvoyer libre » dans le grec, c'est « apostello », qui se traduit par « envoyer en mission »,« envoyer comme messager »,« envoyer en mission par un supérieur ». Donc, non seulement Jésus libère l'opprimé, mais en plus, il l'envoie en mission. Donc, si vous voyez des opprimés autour de vous, ce sont des candidats idéaux pour la mission. Ce soir, si vous êtes avec nous et vous êtes complètement opprimé, gloire à Dieu! Vous êtes un missionnaire. Il y a quelques semaines de ça, j'ai fait un concert chez nous au Canada. Et à la fin du concert, il y a un ami à moi qui s'appelle Randy qui est venu raconter son témoignage, ce que Dieu a fait dans sa vie. Randy est un criminel qui a passé 16 ans de sa vie en prison. Son frère a assassiné quelqu'un. Et il était avec lui, il a été accusé de complicité de meurtre. Il avait 18 ans, je crois, à l'époque. Ensuite, il a fait des vols de prison, il a fait des émeutes en prison, et il s'est retrouvé dans une prison à sécurité maximum. Tu regardes un gars comme ça, tu te dis, il est fini, c'est un opprimé. Eh bien, dans le fond de sa prison, où il était enfermé 23 heures sur 24, il a découvert Dieu. Et dans le fond de sa prison, il a été libéré. Ensuite, il a été libéré de prison. Et savez-vous ce qu'il fait aujourd'hui, Randy? Il est payé par le gouvernement. Il est payé par le gouvernement pour faire la tournée des écoles et raconter ce que Dieu a fait dans sa vie. Apostello! Renvoyé libre, envoyé en mission. Et ce soir, Luc Dumont, c'est exactement ça lui aussi. J'ai été libéré, transformé et envoyé en mission. Donc ce soir, si vous êtes libéré, gloire à Dieu, mais il manque la mission. Il faut absolument que vous soyez en mission. Tout le monde ici, libéré, envoyé en mission. Je suis venu pour envoyer libre les opprimés. C'est la mission pour laquelle Jésus est venu. Et ce soir, je vais lire un passage avec vous dans le psaume 40, versets 1 à 3. Et ce psaume-là, c'est un psaume de David, le roi David. C'est l'histoire de David, mais c'est mon histoire à moi aussi. Ce psaume, Je vois ma vie à travers ce passage. Et certains d'entre vous, vous allez voir votre vie également là-dedans. Psaume 40, il dit, « Au chef des chantres, C'est un chant qu'a composé le roi David. Psaume. « J'avais mis en l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris, il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. » Mes amis, si j'avais le temps, je vous raconterais en détail l'histoire de David, qui est une histoire absolument fascinante. Je n'ai pas le temps, mais c'est un vieux truc pour te faire réinviter. Tu dis que tu as plein d'autres choses à parler, et ils finissent par te réinviter. Bon, voilà. Mais vous avez, je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'expression « le rêve américain ». En anglais, on appelle ça le « American Dream ». Le rêve américain, en quelque sorte, c'est un gars qui débarque aux États-Unis avec 25 centimes dans ses poches, il ne connaît personne, il n'est rien, et quelques années plus tard, il devient le président d'une entreprise, il lance quelque chose d'énorme, tout ça. Et ça, on dit, c'est le rêve américain où tu peux arriver avec rien et construire quelque chose. Eh bien, j'aimerais vous dire ce soir que David a vécu encore plus que le rêve américain. Pourquoi? Parce que David, c'est un musicien, c'est un harpiste. Et moi, j'ai plein d'amis musiciens, et souvent, les musiciens se plaignent de jouer dans des salles où il n'y a personne. Et souvent, ils disent « Ah, on a fait un concert, il n'y a pas beaucoup de monde, tout ça. » Mais David, c'était encore pire que ça. Son public, c'était des brebis. À tous les jours de sa vie, il jouait avec sa harpe, tout ça, et il y a des brebis. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais d'après moi, les brebis se foutent pas mal du concert de David. Donc, écoutez bien, le gars, c'est un harpiste. Pour un public indifférent, d'une famille dysfonctionnelle, d'un bled perdu que personne ne connaît, d'une famille totalement inconnue, et ce gars-là va devenir le plus grand roi de l'histoire d'Israël. C'est pas mal comme ascension, n'est-ce pas? C'est exactement ce que Dieu fait. Il nous prend de la fosse et nous amène à la montagne. Ce soir, le message de la vie de David, c'est que ça n'a pas l'importance d'où tu viens. Avec Dieu, il y a des possibilités. Je pense que mon micro n'a pas fonctionné, c'est pas grave. Avec Dieu, ça n'a pas d'importance d'où tu viens. Avec Dieu, il y a des possibilités pour ton avenir. Amen. Voilà. Et David, il dit dans le passage, il dit, « J'avais mis en l'Éternel mon espérance. » Dans le texte hébreu, le mot « espérance », c'est le mot « kava » qui est traduit par, prochaine image, qui est traduit par « s'attendre à ». Être dans l'attente ou être plein d'espoir. Je pense qu'on va engager un nouveau projet. OK, voilà. S'attendre à être dans l'attente ou être plein d'espoir. Alors, ce que David est en train de dire, c'est qu'il dit qu'avec Dieu, il y a de l'espoir. Mes amis, ce soir, si vous oubliez tout ce que j'ai dit, tout ce qui a été chanté, retenez au moins ceci. Avec Dieu, il y a de l'espérance. Kava. David, si vous étudiez la vie de David, il y a eu plein de problèmes dans sa vie. Il a été trahi, il a été abandonné, il a été persécuté. Si vous trouvez que vous avez un mauvais patron, son patron à David, le roi Saül, voulait le tuer. Il a fallu qu'il se cache dans les cavernes et tout ça. Il a eu des années de souffrance, mais David a compris ceci. Il a compris Kava. Il sait qu'avec Dieu, il y a de l'espérance. Et ce soir, j'aimerais vous dire, mon cœur, en ce moment, est rempli d'espérance pour vous. Dieu... Écoutez bien, le Dieu de l'univers est engagé à fond envers moi. Imaginez, quand je me lève le matin et que j'accomplis ma destinée, je sais que le Dieu de l'univers est engagé à fond envers moi. Il a donné, pas l'un de ses fils, son fils unique pour moi. Et il est engagé à fond envers chacun d'entre vous, sans exception ici ce soir. C'est formidable. Donc, je ne sais pas ce que vous vivez en ce moment, mais si vous êtes dans une impasse, j'aimerais vous dire ceci, avec Dieu, il n'y a jamais d'impasse. Parce que quand il n'y a plus de chemin, il fait des chemins. Donc ce soir, si vous êtes dans les ténèbres, vous êtes dans une crise dans votre vie, dans une situation extrêmement difficile, vous vous sentez seul, j'aimerais vous dire, mettez en l'Éternel votre espoir. Ne mettez pas votre espoir dans un compte bancaire. Ne mettez pas votre espoir dans le gouvernement. Ne mettez pas votre espoir dans des relations humaines. Mettez votre espoir dans celui qui est fidèle et qui est engagé à fond envers vous. Amen. Kava. Et là, il continue en disant, « Il s'est incliné vers moi. » Et dans le texte original, lorsqu'il parle de s'incliner, il parle de s'étirer. En anglais, c'est « stretch », de s'étirer à fond pour aller chercher quelqu'un. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça, mes amis? C'est que ça n'a pas d'importance à quel point vous êtes dans une fosse profonde. Ça n'a pas d'importance à quel point vous êtes loin. Dieu va s'étirer jusqu'à vous pour aller vous secourir et vous chercher. J'ai un de mes amis qui est un alpiniste professionnel et qui, l'année passée, ou il y a 2 ans, il a été pris dans une avalanche. Il m'a dit, Luc, 3 secondes. Il a entendu un bruit, 3 secondes plus tard, il est enseveli complètement. Et il me racontait, il me dit, Luc, tu n'as pas idée de la sensation. Lorsque j'ai senti, j'étais en train de mourir, là, quelques secondes de plus et je mourais, lorsque j'ai senti une main qui m'a sorti parce qu'il y avait des collègues autour de lui qui, eux, ont été épargnés. Ils n'ont pas été ensevelis miraculeusement. Et la première chose qu'ils ont fait, ils sont allés le chercher dans le trou. Et Luc, quand j'ai senti la main, il dit, t'as pas idée l'espoir qui s'est emparé de moi. J'étais en train de mourir. Et tout à coup, une main. C'est exactement ce que Dieu fait. Ce soir, il s'étire vers vous. Même si nous, on s'est éloigné, même si on l'a abandonné, il n'y a pas de limite jusqu'où il peut s'étirer. Dans la Bible, ça dit que son bras n'est pas trop court pour nous sauver. C'est formidable. Et il continue en disant, il a entendu mes cris. Et dans le texte original, il parle de cris de désespoir ou de cris à l'aide. Et j'aimerais vous dire ce soir, je ne sais pas comment les gens peuvent vivre sans Dieu. S'il y a des gens parmi nous ce soir qui n'ont pas Dieu dans leur vie, je ne comprends pas, je ne sais pas comment est-ce possible de vivre une vie sans Dieu, parce que je ne sais pas combien de fois dans ma vie j'ai crié à Dieu pour de l'aide. Et c'est formidable, parce que 100% des fois où j'ai crié à l'aide, 100% des fois, il m'a secouru. Alors ce soir, si vous êtes dans la détresse, si vous avez peur, il veut vous secourir. Vous pouvez crier au Dieu de l'espoir. C'est formidable. Et il continue en disant, il m'a retiré de la fosse. Dans l'hébreu, c'est le mot « bor » qui veut dire prison ou donjon. Donc, Dieu, il nous sort de la prison, de la fosse. Et peut-être ce soir que vous êtes dans une fosse en ce moment. Moi, je me suis senti dans une fosse pendant des années de ma vie. Le pire, c'est que les gens, personne autour de moi, se doutait que j'étais dans une fosse. Il faut savoir que j'ai eu une super enfance. Vous savez, des fois, on entend des témoignages de personnes qui racontent ce que Dieu a fait. Ils ont eu des enfances maltraitées, tout ça. Moi, ce n'est pas ça du tout. J'ai eu des super parents. Des parents qui étaient engagés envers leurs enfants, qui aimaient leurs enfants, qui pourvoyaient aux besoins de leurs enfants. Vraiment des super parents. Le seul problème que j'ai eu dans ma jeunesse, c'est d'avoir une sœur. c'est une blague. Et quand j'étais enfant, j'avais un rêve, c'était, je voulais être un écrivain. Et j'ai participé à plein de concours de littérature, tout ça, et j'ai remporté plusieurs prix, et j'écrivais, c'est fou là, parce que j'avais 10 ans, 8 ans, 10 ans, 11 ans, tout ça, et j'écrivais des histoires d'horreur. Vraiment, des histoires de cimetières, de pierres tombales, de gars qui se font égorger, de trucs. Et vous savez, je transmettais les ténèbres qui étaient en moi. Les enfants ont besoin de Dieu. On est dans les ténèbres. Et on a besoin de la lumière. Alors, j'écrivais plein de trucs de ténèbres. Mais ma mère était super fière parce que son fils était écrivain. Il remportait des concours, tout ça. Ma mère, elle parlait de tout le monde, de son fils, son mon Luc, tout ça. Et j'étais le genre d'étudiant qui s'assoyait toujours au premier rangé à l'avant, qui apportait une pomme au professeur. Littéralement, qui apportait une pomme au professeur, tout ça. Donc, ma mère, elle s'est dit, ça y est, c'est vraiment le fils de rêve, tout ça. Et tout allait super bien dans ma vie, mais elle ne savait pas que j'étais rempli de ténèbres. Et je me souviens, jusqu'à ce que mon cerveau, jusqu'où mon cerveau peut se souvenir, j'ai tout le temps cherché. Je cherchais un sens à ma vie. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'en parlais à personne. Mais j'écrivais des trucs pour essayer de créer un sens, tout ça. Et par la suite, ça s'est vraiment compliqué au niveau de l'adolescence, parce qu'il faut savoir que j'ai toujours dans ma vie fréquenté des gars plus vieux. Et à l'adolescence, je fréquentais des adultes. Mais j'ai tout le temps fréquenté des gars plus vieux. C'est pour ça que je suis ami avec votre pasteur. C'est une blague. Mais, enfin... Et là, tout à coup, à l'adolescence, je voulais devenir une rock... Je me suis acheté une guitare et je voulais devenir une rock star. Et je me commençais à fréquenter des gars plus vieux, tout ça. Et on écrivait des trucs complètement ridicules, des trucs sombres, dégradants, tout ça. Et ils m'ont initié. Malheureusement, j'ai été initié à plein de choses pour lesquelles j'étais beaucoup trop jeune et que j'aurais jamais dû découvrir tout ça. Et ma vie a dégénéré. En quelques mois, j'ai dégénéré complètement. J'ai sombré dans la rébellion la plus totale. Et je vais vous épargner les détails ce soir. L'objectif, ce n'est pas de raconter tout ce que les bêtises que j'ai faites, tout ça. Mais tout ça pour vous dire que j'étais tout le temps de plus en plus vide. Je descendais dans une fosse, dans un donjon, dans une prison d'une profondeur extrême. Mais les gens n'avaient aucune idée parce que j'étais toujours le gars en train de faire la fête et tout ça, avec j'avais plein d'amis et tout ça. Et les gens n'avaient aucune idée, mais j'étais profondément vide à l'intérieur. Je cherchais. Et à chaque fois que j'avais une nouvelle expérience, je me disais, une nouvelle expérience va peut-être finalement combler ce vide. Mais plus j'expérimentais des choses, plus je m'enlisais. Et il faut savoir que parallèlement à tout ça, j'avais un autre ami qui était chrétien. Et la raison pour laquelle c'est devenu mon ami, c'est parce que le gars, il était cool. Vous savez, tu peux être chrétien et être cool. Si ça avait été un chrétien extraterrestre, comme j'en rencontre parfois, ça n'aurait jamais été un ami et il n'aurait jamais pu me toucher. Si vous voulez toucher les gens autour de vous, soyez cool. Je ferme la parenthèse. Et un jour, je suis chez lui, dans la maison, et dans le sous-sol de la maison, il y avait une affiche sur le mur, et c'était une vieille église entourée, c'était la nuit, une vieille église avec des pierres tombales autour de l'église. Il y avait des corps qui montaient, qui sortaient des pierres tombales et qui montaient. Et là, ça a attiré mon attention parce que c'est le genre de truc que j'écrivais. Je dis, c'est de la fiction, tout ça. Il dit, non, pas vraiment. Parce qu'en dessous, il y avait un verset, je ne savais pas que c'était un verset. Un verset de la Bible qui dit, en un instant, en un clin d'œil, nous serons changés et nous monterons avec le Seigneur sur les nuées. Et là, j'ai dit, c'est quoi ce truc-là? Et là, il était hyper mal à l'aise. Il dit, écoute, en fait, laisse-moi t'expliquer. C'est parce que, tu sais, il était vraiment mal à l'aise. Il dit, tu sais, un jour, Jésus va revenir sur la terre. Genre, Jésus est déjà venu? Il va revenir. Et il dit, tous ceux qui ont cru vont monter avec lui sur les nuées. Je dis, oh! J'ai dit, t'en as fumé du bon. Et là, il a commencé à me partager l'Évangile, comment il croyait. Mais je le trouvais cool, je trouvais ça vraiment bizarre, son truc de chrétien, mais il était cool. Alors, puisqu'il était cool, je restais ami avec lui. Le seul problème, c'est son père. Son père était pasteur. Et j'avais terriblement peur de son père parce qu'il avait des yeux bleus, vifs, radars, détecteurs de péché. C'est pas des blagues, hein. J'arrivais pas à le regarder dans les yeux parce qu'aussitôt qu'il me regardait, j'avais l'impression que l'alarme sonnait. Alors il me disait, comment ça va Luc? Ça va bien. Tout le temps, je me souviens pas de l'avoir regardé dans les yeux. Vraiment, j'étais terrifié par lui. Il était bizarre, il jouait de la musique chrétienne. Il avait toujours sa guitare, il chantait des chants chrétiens dans la maison. Je trouvais bizarre, mais j'étais attiré par l'ami. Et ce qui est très spécial, c'est que j'ai jamais dit à personne qu'il était chrétien. J'ai jamais dit à mes parents qu'il était chrétien. Mais chaque fois qu'il venait à la maison chez moi, mes parents me disaient, mon père en particulier, il n'est pas comme tes autres amis, j'aimerais que tu te tiennes plus avec ce gars-là. C'est spécial. Il n'y a rien à faire. Quand tu as la lumière, tu as la lumière. Mais je m'enlisais vraiment, gravement. Et là, il commençait à avoir des sérieux problèmes avec ma vie, tout ça, avec des conséquences, tout ça. Mes parents étaient désemparés. Et un jour, j'ai fait connaissance avec un nouvel ami. Et quand j'ai rencontré ce nouvel ami, j'ai dit, ça y est, voilà le sens de la vie. Pourquoi? Parce que ce gars-là, son père était riche. Et ce gars-là avait plein, mais je vous dis, c'est pas, il avait beaucoup, là. Il avait des voitures sport. Pas une, des voitures sport, des motos. Donc, il me prêtait une voiture, il me prêtait une moto. Il était hyper généreux en plus. On sortait dans les boîtes le samedi et son père nous donnait des billets de sang. Tiens, ça c'est pour Luc, ça c'est pour toi, Pierre. Il s'appelait Pierre. Il donnait comme ça, amusez-vous les gars. Et là, moi, je me dis, c'est ça la vraie vie. Ça, t'es heureux, vraiment. Et là, je trouvais ça formidable, des fringues, tout ce que vous voulez. Mais un soir, quelques mois plus tard, on est dans une boîte de nuit. Et ce gars-là, Pierre, il me regarde et me dit, Luc, je rêverais tellement d'avoir ta vie. Et là, je ne comprends pas ce qu'il est en train de dire. On va chez toi, on sent l'harmonie, il y a une paix dans ta maison, tes parents s'aiment, on voit qu'ils vous aiment. J'aurais tellement aimé avoir une vie comme ça. Il dit, mon père, il y a plein d'argent, mais il n'est jamais présent, je n'ai pas connu mon père. Mon père a brisé le cœur de ma mère, je ne sais pas combien de fois. Il est tout le temps en train, il y a eu plein de maîtresses, j'ai constamment joué à ma mère en train de pleurer à la maison. Il n'est jamais là, il travaille tout le temps. Et quand il vient à la maison, il distribue son argent pour se faire pardonner, puis ensuite il repart comme ça. J'aurais rêvé d'avoir une vie comme la tienne. Et quand il dit ça, il m'a complètement foudroyé parce que lui, il a la vie que moi je rêve, dont moi je rêve, et lui est malheureux et vide, et moi j'ai la vie que lui rêve, et moi je suis malheureux et vide. Alors je m'enlise de plus en plus, et là je me dis, il n'y a plus d'espoir. Et j'étais vraiment, vraiment dans le fond d'une fosse. Et je retourne un jour chez mes amis chrétiens, chez mon ami chrétien. Et là, Dieu utilise toutes sortes de circonstances pour nous parler. Je suis chez mon ami chrétien. Et là, je suis complètement désemparé parce que je me suis fait voler mon portefeuille avec toutes mes pièces d'identité et beaucoup d'argent qui était dedans. Et j'étais complètement désemparé, tout ça. Et tout à coup, le pasteur arrive dans la cuisine. Il y a des dates, des moments comme ça que tu n'oublieras jamais dans ta vie. On est dans la cuisine, je suis désemparé. Le pasteur arrive. Et là, il voit qu'il se passe quelque chose. Il dit, est-ce qu'il y a un problème? Je dis, non, tout est bon, tout est bon. Et là, mon ami chrétien, il dit, non, papa, il s'est fait voler son portefeuille avec toutes ses pièces d'identité, son argent, tout ça. Et là, le pasteur dit, il n'y a pas de souci. Il dit, Jésus sait où est ton portefeuille. Et ma première réaction, dans ma tête, je me dis, quoi, c'est Jésus qui me l'a volé? Et là, il dit, voici ce qu'on va faire. Et là, je trouvais ça vraiment bizarre. Il dit, voici ce qu'on va faire. Il dit, on va se prendre par la main, puis on va demander à Jésus de te redonner ton portefeuille. Alors, prenons-nous par la main, fermons les yeux et prions. Pense, est-ce que tu crois vraiment que trois gars dans une cuisine qui se tiennent par la main, que je vais fermer mes yeux? Et là, il a fait une prière. Pour moi, la prière, c'est dans un endroit sombre avec un gros orgue, tout ça. Et là, il fait une prière complètement ridicule à mes yeux. Il dit, Jésus, Luc a perdu son portefeuille. Tu sais où est son portefeuille. Ce serait génial que tu lui redonnes son portefeuille. Amen! Et là, je suis sorti tout de suite. J'ai dit, là, je pense que je suis allé trop loin, que ces gens-là sont... C'est des cinglés, ça n'a aucun sens. Alors, j'arrive chez moi. En arrivant, c'est pas des blagues, en arrivant chez moi, message sur le répondeur téléphonique. Oui, bonjour, le message est pour Luc Dumont, simplement pour vous dire que j'ai trouvé votre portefeuille. Dites-moi comment vous voulez, je peux aller vous le porter si vous voulez. J'appelle le gars est venu chez moi, il m'a donné le portefeuille avec tout dedans, tout l'argent, il manque rien. Là, je me suis dit, peut-être que ça existe finalement. Deux semaines plus tard, tous les vendredis soirs, j'allais chez mon ami chrétien pour l'inviter avec moi dans les boîtes de nuit. Il me disait tout le temps non, il me disait « je vais à la réunion des jeunes à l'église ». Je trouvais ça tellement bizarre, une réunion de jeunes à l'église. Quoi, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'assoient en rond, qu'est-ce qu'ils font? Mais à tous les vendredis soirs, je l'invitais, puis ensuite je sortais. Et ce vendredi soir-là, j'oublierai jamais. Je l'invite, il me dit non, je sors. Et en sortant, je tombe face à face avec les radars, avec le pasteur. « Comment ça va, Luc? Ça va bien? Ça va bien? » Et là, il me dit, qu'est-ce que tu fais demain soir, samedi soir? Je faisais tout le temps quelque chose le samedi soir. Je sortais dans les boîtes de nuit. Il dit, qu'est-ce que tu fais demain soir? Rien. Il dit, écoute, il y a une soirée spéciale. Et là, il essaie de m'expliquer dans un langage pour que je comprenne. Il me dit, il y a une soirée spéciale où il y a un monsieur des États-Unis qui s'appelle David Wilkerson qui va venir et il va raconter son témoignage, comment il a touché des drogués dans les rues de New York et tout ça. Est-ce que tu veux venir entendre? Et dans ma tête, ça dit, non, on n'y va pas. Je regarde, j'y ai pas de souci, je vais y aller. Et là, ma soirée est complètement gâchée, je ne veux pas y aller. Il faut que vous sachiez qu'à l'époque, je portais des vêtements excentriques, j'avais des grands cheveux, j'étais vraiment bizarre. Et là, je suis entré dans c'était dans une aréna, il y avait des milliers de personnes, je suis entré. Et là, tout le monde me regardait, je n'étais pas comme les gens qui étaient là. Et là, ils ont commencé, comme ce soir, à chanter des chants, il y avait une orchestre, des batteries, guitare électrique, tout ça. Et il y avait des gens qui levaient leurs mains et qui dansaient comme ça. Et là, moi, j'étais extrêmement au cœur, alors j'ai commencé à faire comme eux. J'ai commencé à lever mes mains, à les imiter. Et je disais, vous êtes tous des fous, je disais ça super fort. Vraiment. Et là, mon ami était hyper mal à l'aise, tout ça. Et finalement, M. Wilkerson a commencé à parler. C'est un pasteur. Il a commencé à parler, raconter ce que Dieu faisait, tout ça. J'écoutais pas du tout. Je regardais la montre, puis je voulais partir, m'en aller, tout ça, dans la boîte de nuit. Et finalement, à la fin, il a lancé une invitation. Et il y a des centaines de personnes qui sont approchées pour donner leur cœur et leur vie à Dieu. Et il a dit ceci. Il y avait des milliers de personnes. Il a dit, je vais prier avec ces gens, mais il y a encore une personne qui doit s'approcher. Imagine, il y a des milliers de personnes. Il y a encore une personne qui doit s'approcher. Et si tu t'approches, Dieu va transformer ta vie, va remplir ton cœur et tu vas être un instrument entre ses mains. Et aussitôt qu'il a dit ça, c'est comme si quelque chose s'était allumé à l'intérieur de moi. Je me suis retourné auprès de mon ami chrétien, j'ai dit, je pense qu'il faut que j'aille. Il m'a dit, ouais. Imagine le gars qui riait de tout le monde, commence à marcher dans l'allée. J'avais l'impression que tout le monde me regardait. Et quand je suis arrivé en avant, je n'avais jamais ressenti... Je ne savais pas à l'époque, je n'étais pas capable de définir tout ça, mais je ressentais, c'est comme si quelqu'un me prenait dans ses bras. Je sentais de l'amour, mais vous n'avez pas idée, je sentais de l'amour. Et c'était tellement fort que quand je suis arrivé en avant, je me suis tombé sur mes genoux, j'ai commencé à pleurer, mais hors de contrôle. Et j'ai fait une prière où j'ai demandé au Seigneur de pardonner mes fautes. Et en un instant, le vide a été comblé. Sur le champ, le vide a été comblé. C'est comme si tout ce que j'ai toujours cherché, je l'ai trouvé à ce moment-là. Et j'oublierai jamais le lendemain, lorsque je suis retourné chez les chrétiens, la famille chrétienne, pour la première fois, sans m'en rendre compte, la première fois, je regardais le pasteur dans les yeux. Et ce qui est fou dans cette histoire, c'est qu'il m'a raconté, ça faisait des années que lui, il allait prêcher dans différentes églises au Canada. Et quand il prêchait, il disait souvent, il disait « Priez pour l'ami de mon fils, Luc Dumont, qui n'est pas chrétien, mais qui a un appel de Dieu sur sa vie. » Et quand il va se convertir, il va prêcher l'Évangile dans le monde entier. Il disait ça aux gens. Alors, il y avait des gens qui priaient pour moi partout. Et là, on est dans la cuisine. Et là, il me dit, Luc, tu vas prêcher l'Évangile. Et je te trouve encore un peu cinglé, mais... Et là, ma vie, il m'a retiré de la fosse, de la prison. C'est comme si, tout à coup, la porte de la prison s'était ouverte. C'est comme si j'avais des chaînes. Et tout à coup, les chaînes avaient été brisées. J'étais tellement transformé, mes parents m'ont dit, mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Et je ne savais pas trop comment expliquer, c'était tellement nouveau pour moi. Mais ça a tellement bouleversé mes parents de voir la transformation que mes parents, tout de suite, sont venus à la connaissance du Seigneur aussi. Et David dit, l'image suivante, David dit, il m'a retiré de la force de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc. Dans l'hébreu, le roc, c'est Sela qui veut aussi dire montagne. Il m'a pris de la fosse et il m'a dressé sur le roc. Et il m'a dressé sur cette montagne. Et ensuite, il continue. Et juste une parenthèse pour vous dire que lorsqu'il parle de la montagne, David, il parle de la montagne de Sion. Je n'ai pas le temps d'expliquer ce soir, mais simplement dire ceci. La montagne de Sion dans la Bible, et pour David, c'est un lieu extrêmement significatif. C'est le lieu d'adoration. C'est un symbole, c'est là qu'il y avait la manifestation de la présence de Dieu. Et c'est comme si David parle de ce vide, de cette fosse, de cette prison, et il est passé de la prison à la montagne, au roc, inébranlable, à l'espoir, à la lumière. Et il dit, il a dressé mes pieds sur le roc, il a fermé mes pas. Dans le texte original, lorsqu'il parle d'affermir les pas, et je vais terminer dans un instant, mais il parle, le mot pour affermir, c'est le mot « kun », qui veut dire « diriger » ou « direction ». Il m'a pris dans la fosse, il a mis mes pieds sur le roc, et il m'a donné une direction. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Je cherchais à gauche et à droite, je cherchais un sens à ma vie, où va ma vie, qu'est-ce qui m'attend, tout ça. Aussitôt que j'ai découvert Dieu, j'ai eu une direction. J'ai trouvé le sens de ma vie. Aussitôt, je savais pourquoi, tout à coup, pourquoi j'étais né. Et c'est ce qu'il veut donner ce soir à tous ceux et celles qui sont ici, qui sont dans une fosse ou qui ont perdu un sens de direction. Ce soir, Dieu veut être ton guide. Il veut te sortir de la fosse, t'établir sur le roc, sur la montagne. Il veut te donner une direction. C'est très difficile. J'ai fait beaucoup de montagnes. J'ai fait beaucoup d'ascensions de montagnes. Je suis allé dans les montagnes de l'Himalaya. Dans le fond d'une fosse, tu ne vois absolument rien. Dans le fond d'une fosse, tu vois que la fosse. Si tu veux savoir ce qu'il y a autour de toi, va sur la plus haute montagne. Et quand tu es en haut de la montagne, tout à coup, il y a un horizon. Tout à coup, il y a une perspective. Tout à coup, tu vois le village qui est là-bas. Tout à coup, tu vois la lumière. Tout à coup, tu vois l'espoir. On ne peut pas survivre dans la fosse. Il faut absolument en sortir pour aller sur la montagne. Et tout à coup, il y a une direction. C'est ce que Dieu a fait dans ma vie. Et c'est ce qu'il veut faire dans votre vie ce soir. Et là, en conclusion, il dit, il a mis... dans ma bouche, au verset 3, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Et là, c'est la folie de cette histoire. C'est que quand on parle de cantique nouveau, dans l'hébreu, on parle d'un cantique de renaissance, d'un cantique de renaissance, de renouveau. Écoutez bien ceci ce soir. Il n'y a personne... Vous savez, j'avais ma guitare, je jouais de la musique, j'écrivais des trucs horribles. Aussitôt que j'ai découvert l'espoir, aussitôt que j'ai découvert le Seigneur, aussitôt que j'ai découvert la lumière, il n'y a personne qui m'a dit, Luc, ce serait bien maintenant que tu écrives des chants chrétiens. Il n'y a personne. Automatiquement, parce que j'étais renouvelé à l'intérieur, automatiquement, j'ai pris ma guitare et j'ai commencé à écrire des chants de louange. Automatiquement. Et puisque j'étais l'ami du pasteur, du fils du pasteur, eh bien, 3 semaines plus tard, je me suis retrouvé dans le groupe de louanges. C'est un peu rapide, là, mais je me suis retrouvé dans le groupe de louanges. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de chants contemporains. Alors, j'écrivais des chants pour le groupe de louanges. Et là, j'écris un chant et il y avait des gens de d'autres assemblées qui venaient à notre groupe de jeunes. Donc, on était sur le bord de l'estrade, on écrivait les partitions de mes chants et mes chants partaient partout. Et un jour, je me suis retrouvé à découvrir que mes chants étaient chantés partout. Et les gens commençaient à m'inviter pour aller chanter les chants que j'avais composés, aller les chanter dans leur assemblée. Alors, je vais dans une assemblée, je chante mes chants. Alors, il y a un pasteur d'un autre endroit qui m'invite dans une autre assemblée. Après ça, il me dit, mais pourquoi tu ne traverserais pas l'océan? Tu ne viendrais pas en France aussi? Alors, je suis allé en France. Après ça, pourquoi tu ne viendrais pas à l'île de la Réunion? Alors, je vais à l'île de la Réunion. Ah, pourquoi tu ne viendrais pas en Martinique et en Guadeloupe? Alors, je vais en Martinique et en Guadeloupe. Pourquoi tu ne viendrais pas en Polynésie française, à Tahiti, là où Dieu habite, à l'année longue? Alors, je suis allé là-bas. Pourquoi tu ne viendrais pas en Nouvelle-Calédonie? OK, on va en Nouvelle-Calédonie. C'est vraiment ça! Aujourd'hui, ma vie, c'est poursuivre mes chants. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Il a restauré ma vie, il m'a pris dans le fond d'une fosse et il m'a propulsé dans une destinée extraordinaire. Mes amis, c'est ce qu'il veut faire avec chaque personne ici, ce soir. Il faut que je vous raconte ceci et je termine avec ceci. Vous avez vu ma guitare? Ma guitare a une vie extrêmement difficile. Pourquoi? Parce que des fois, je pars de chez moi au Québec, il fait moins 20 degrés, je fais 4 heures d'avion, j'arrive dans les Antilles, il fait plus 30. Choc thermique de 50 degrés. Donc, la guitare, très souvent, elle a une vie très, très difficile. Alors, je dois la porter chez... On bouge pas. Je dois la porter chez le luthier 3 ou 4 fois par année. Comme là, en ce moment, elle a des petits besoins d'ajustement. Je la rapporte chez le luthier. Il fait tellement chaud depuis une semaine. La guitare, elle m'a dit qu'est-ce qui se passe dans ce pays. Elle ne comprend plus ce qui se passe. Alors, je l'amène chez le luthier. Vous devez savoir que mon luthier, c'est un fou passionné de guitare. J'ai jamais vu quelqu'un aimer autant les guitares. Je suis certain qu'il se couche avec des guitares le soir. Et la dernière fois, il m'a dit, Luc, il faut absolument que tu viennes me voir travailler. Alors, je suis allé à son atelier, et là, avant qu'on commence à travailler sur ma guitare, il m'a montré cette guitare. Parce que c'est un de nos amis communs qui a acheté cette guitare. C'est une Gibson des années 60. Si vous connaissez les guitares ce soir, une Gibson des années 60, c'est le rêve. C'est des guitares de fou. C'est très dur à trouver une bonne Gibson des années 60. Ça sonne en fou. C'est incroyable. Une chose qui est certaine, c'est que cette guitare-là, elle a déjà sonné extraordinairement. Mais le problème, c'est que le gars qui l'a acheté, a acheté une guitare dans un état profondément lamentable, toute cassée. Moi, si on m'avait donné cette guitare-là, je l'aurais fait un feu de camp avec. Je n'aurais pas joué autour du feu de camp, je l'aurais brûlé dans le feu de camp. Mais le luthier, quand il l'a vu, il a dit, « Voilà un projet extraordinaire. » Alors, ce qu'il a fait, il m'a montré le vidéo, tout ça, il a restauré, et il y a d'autres images, là. Il a restauré complètement la guitare, vous allez voir dans quel état est cette guitare. Je veux dire, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Cassée, je ne sais pas. Elle a été maltraitée, battue, oubliée, je ne sais pas ce qu'il a fait avec, mais c'est horrible. Prochaine photo. Et là, lui, il a commencé, il a complètement refait la guitare. Il a changé les tables de résonance. On continue, prochaine photo. Et là, je veux dire, c'est pourri, on fait un feu avec ça. Là, on met des fleurs là-dedans, je ne sais pas trop. Et finalement, à la fin, ça donne cette guitare. Cette Gibson n'a jamais été aussi belle. Mais attention, elle n'a jamais autant sonné. Il n'y a pas de mots pour décrire comment cette guitare sonne. Mais la folie dans cette histoire, c'est que cette guitare appartient à un gars qui s'appelle Jimmy LaHaye. C'est lui qui joue sur les albums Héritage. Si vous connaissez les albums Héritage, c'est cette guitare. Alors, Jimmy LaHaye est un guitariste extraordinaire. Cette guitare n'a jamais été aussi utile dans toute son histoire. Elle joue dans le monde entier. Elle résonne, elle a un nouveau son, elle sonne en fou. Une guitare qui a déjà sonné, qui a perdu son son, qui a été cassée, qui a été renouvelée et qui sonne avec un son nouveau. Eh bien, mes amis, c'est exactement ce que Dieu fait. Dieu nous prend. Certains d'entre vous, peut-être, vous avez déjà sonné, votre vie a déjà eu un son. Vous avez perdu votre son, brisé par la vie, les soucis, les blessures, les déceptions. La vie, ce n'est pas toujours facile. Et on perd tranquillement notre son. Mais Dieu nous prend dans le fond de la fosse. Il nous monte sur la montagne. Il nous restaure. Et tout à coup, il donne un son à notre vie. C'est ce qu'il veut faire pour toi ce soir. Il veut te faire résonner à nouveau. Peu importe votre histoire, peu importe ce qui vous est arrivé, comme cette guitare, il vous prend de la fosse et il vous amène sur la montagne. Amen. Alors, j'aimerais qu'on puisse pencher nos têtes, fermer nos yeux si on veut, si vous voulez bien. On va terminer ce soir en priant. Mais je crois ce soir qu'il y a des gens qui ont besoin d'être renouvelés dans ce lieu. Je crois qu'il y a des gens qui ont besoin de cet espoir qu'offre Dieu. Ce soir, le but de cette soirée, c'est la proclamation de la lumière et de l'espoir. De la fosse à la montagne. Il m'a retiré de la fosse de destruction. Alors, pendant qu'on est dans un moment, vous savez, c'est un moment personnel en ce moment. J'aimerais prier pour tous ceux et celles qui sont parmi nous ce soir, qui ont besoin de sortir de la fosse. Et vous savez, il y a deux genres de personnes qui peuvent être dans une fosse ce soir. Il y a premièrement tous ceux et celles qui ont été invités ici dans ce lieu et peut-être que vous ne connaissez pas encore Dieu, comme moi à l'époque. Et à cause de ça, vous êtes dans une fosse. La vie vous a traîné dans une fosse. Et ce soir, le seul espoir possible pour en sortir, c'est Jésus. Alors, c'est pour vous ce soir. Cette prière, c'est pour vous. Mais cette prière s'adresse également à tous ceux et celles qui sont ici, mais qui connaissent Dieu. Vous savez, on peut retomber dans des fosses. Même si on en est sorti une fois, on peut encore tomber dans une crevasse, dans une fosse profonde. Et c'est pour vous également, ce soir, tous ceux et celles qui sont dans une fosse, mais qui veulent prendre la main du Seigneur qui est tendue vers eux pour en sortir, pour en être libérés. C'est pour vous. Alors, pendant nous sommes dans un moment de recueillement, j'aimerais offrir, comme il m'a été offert à moi, j'aimerais offrir cet espoir à tous ceux et celles qui sont dans une fosse et qui ont besoin d'en sortir. Que vous soyez chrétien ou que vous ne le soyez pas, ça n'a pas d'importance ce soir. La main de Dieu est pour chaque personne qui est dans ce lieu. Alors, si vous êtes dans une fosse ce soir et vous avez besoin d'en être secouru, vous voulez dire, Seigneur, viens à mon secours. Je vous demande simplement, là où vous êtes, de lever votre main. On va prier ensemble dans un instant. Combien ont besoin de sortir de la fosse? Que Dieu vous bénisse. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu voit toutes ces mains. Dieu voit toutes ces personnes. Amen. On va prier ensemble dans un instant. Il y a de l'espoir dans ce lieu. Dieu est là. On peut baisser nos mains. J'aimerais prier aussi pour tous ceux et celles qui ont perdu leur son. Je crois qu'il y a quelques personnes dans ce lieu ce soir qui, vous avez déjà résonné, votre vie avait un son. Vous avez déjà résonné pour la gloire de Dieu. Mais il y a eu, vous êtes comme la guitare, vous avez été abandonné, blessé, brisé, maltraité, négligé, cassé. Et au fil des mois et des années, peut-être pour certains, on perd notre son. Et aujourd'hui, vous n'avez plus de son. Mais le Seigneur a un son nouveau pour vous. Le Seigneur veut dresser vos pieds sur le roc. Il veut affermir vos pas, vous donner une direction. Il veut vous donner un son. Chaque vie, chaque personne ici a un son. Et ce son, c'est pour les autres. Ce son doit résonner pour les autres. Et ce soir, Dieu veut redonner le son à ceux qui ont perdu leur son. Alors, si vous êtes avec nous et que votre vie a perdu son son, mais vous voulez retrouver votre son par la grâce de Dieu, simplement levez votre main, on va prier ensemble dans un instant. Tous ceux qui ont besoin de retrouver leur son, amen. Soyez bénis, Dieu vous voit. Dieu va vous renouveler, des jeunes, des moins jeunes, toutes sortes, des hommes, des femmes. C'est pour tout le monde ce soir. Alléluia. Et je vais prier aussi, en terminant, pour tous ceux et celles qui n'ont pas trouvé le sens à leur vie. C'est terrible de vivre une vie sans avoir trouvé un sens à sa vie. Et j'aimerais vous dire ce soir qu'il y a un sens de destinée pour chaque personne qui est ici. On n'est pas appelé à survivre sur cette terre, nous sommes appelés à vivre. Et il y a un sens de direction pour chaque personne qui est ici. Alors, ce soir, même si vous êtes plus âgé, il est possible encore de trouver ou de retrouver un sens à votre vie. En ce moment, il y a certains d'entre nous qui, vous avez l'impression de tourner en rond, vous avez l'impression que votre vie ne sert à rien. Dieu veut vous donner un sens. C'est pour ça qu'il nous monte sur la montagne. C'est pour ça qu'il affermit nos pas. Alors tous ceux et celles, ce soir, qui ont besoin de trouver un sens, qui veut dire « Seigneur, donne un sens à ma vie. Révèle-moi le sens de ma vie. » C'est extrêmement important. Ça change toute une vie au complet. Si c'est votre besoin, votre prière ce soir, le cri de votre cœur, juste de lever votre main partout dans cette place. On va prier ensemble dans un instant. Amen. Touchez personne, Seigneur, s'il te plaît. Touchez personne, un sens à ma vie. Amen. Gloire à Dieu. On va se lever ensemble, si vous voulez bien. Et après l'avoir chanté, on va prier tout le monde ensemble. Et je crois ce soir que c'est, je vais déclarer, ce soir pour plusieurs personnes ici, c'est la fin de quelque chose et le commencement de quelque chose. Je le déclare par la foi, c'est la fin de quelque chose et le commencement de quelque chose de nouveau. Alors on va chanter ce chant.